Ben, du coup, je me sens un peu seul, hein. Vous aviez de la chance, les frères, vous étiez bien entourés. Voilà, on va aborder le dernier texte, hein, des épîtres de Paul à Corinthiens qui traite de la question des dons. Et ce matin, on va parler, le titre de la prédication, c'est « Une manifestation dans la diversité humaine ». On va lire dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 33 jusqu'au verset 40. Hein, c'est la fin du chapitre. On est page 239, hein, dans la Bible rouge qui vous est maintenant familière. Et avant de lire, un petit rappel. Rappelons-nous la manière d'enseigner de Paul. Il expose d'abord la saine doctrine. Il l'explique. Il l'illustre. Et enfin, il corrige les défauts et erreurs des Corinthiens. Et nous en sommes encore ici dans cette partie corrective de son enseignement. Paul éprouve le besoin de remettre de l'ordre dans cette église de Corinthe, dans laquelle, il faut bien convenir, hein, semble régner une certaine pagaille au moment du culte. Dans le texte qu'on va lire ce matin, on constate que Paul semble hausser le ton, comme s'il voulait mettre définitivement les pendules à l'heure à Corinthe, en tout cas sur le sujet qu'il va aborder ici et qu'on va lire maintenant. Alors je prends au début du verset 33. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître que ce que je vous écris, dans ce que je vous écris, un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement, et non dans le désordre. Alors je vous rappelle qu'on est toujours dans le contexte de l'enseignement sur les dons. Et Paul aborde la question de la place de la femme des sœurs dans l'Église. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, d'enseignement spécifique concernant les femmes dans la Bible, mais un principe général accompagné çà et là de correctifs. Si quelqu'un connaît un chapitre où il est dit, bon, voilà, les femmes, voilà leur place dans la société, voilà leur place, je sais pas, enfin, voilà. Les commentateurs sont assez d'accord avec ça. Alors peut-être il faut en déduire que la femme n'a pas besoin d'être maintenue de gré ou de force dans une situation d'honneur ou d'humiliation. Il suffit donc de comprendre et de pratiquer le texte biblique. Mais le texte qu'on aborde ce matin est de l'avis général d'une très grande difficulté. Au centre de controverses dans l'Église de Jésus-Christ, et certainement sous la pression du féminisme montant. Alors, on peut avoir plusieurs manières d'aborder ce texte. La première étant de l'aborder de manière littérale. Les femmes se taisent dans l'église, point, barre. Les sœurs, s'il vous plaît, vous cessez de prier et vous ne répondez plus amen aux prières des hommes. Mais cette lecture est en totale contradiction avec ce que Paul vient d'expliquer au chapitre 11, où il reconnaît, et il semble même encourager, la prière et la prophétie des sœurs. Alors cette lecture semble poser problème, n'est-ce pas? Les sœurs, vous pouvez continuer à prier, vous pouvez continuer à dire amen à toutes les prières. L'autre manière d'aborder le texte, c'est de l'ignorer. Et vous avez déjà entendu ça, hein? Ouais, non, mais Paul, c'était un misogyne. C'est évident. Il ne faut pas tenir compte de ce texte. En fait, il s'est égaré, il a eu un coup de sang, il s'est égaré. Je ne crois pas qu'on puisse aborder ce texte de cette manière-là, n'est-ce pas? Vous pouvez le relativiser. Ouais, bien sûr, Paul a dit ça, mais vous savez, c'était en relation avec la culture de l'époque. C'était seulement valable pour ce temps-là, à Corinthe. Et puis c'était seulement valable pour les femmes de cette époque-là, ou peut-être même seulement pour un certain groupe de femmes dans l'église de Corinthe. Alors, un peu de distance. Ou alors, vous pouvez considérer que ce passage est la parole de Dieu, et vous pouvez chercher honnêtement à le comprendre et à le mettre en pratique. Et alors là, la difficulté est de taille. Parce que les questions sont nombreuses et les réponses ne sont pas évidentes. Quelles sont ces églises des saints? Est-ce que ça représente toute l'église, l'église universelle? Est-ce que ça représente l'église de Judée ou l'église de Jérusalem qui était un modèle à cette époque-là? À quelle femme s'adresse Paul? À toutes les sœurs de l'église? À celles qui bavardent dans le fond? À celles qui interviennent de manière, pendant que le prédicateur prêche, il y a toujours deux, trois femmes qui se permettent de l'interrompre, ou quand quelqu'un parle, il y a toujours des femmes qui se permettent de l'interrompre. Des femmes indisciplinées. Qu'elles se taisent? Est-ce que c'est tout le temps? C'est-à-dire qu'elles ne doivent jamais ouvrir la bouche? Mais on vient de se rendre compte que Paul enseignait le contraire quelques chapitres précédemment. Est-ce qu'elles doivent se taire dans certaines circonstances? Il y a des moments précis où il vaut mieux qu'elle se taise, qu'elle ne parle pas dans le culte. Paul fait référence à la loi, comme le dit aussi la loi. Quelle loi? La loi grecque? La loi juive? La loi de Dieu? Mais où la loi enseigne-t-elle des choses claires à propos de la place de la femme? Qui peut me donner la référence dans la loi où il est dit, voilà, pour ce qui concerne la femme, voilà les prescriptions. Elles doivent s'adresser à leur mari. Alors qu'est-ce qui se passe pour les célibataires et les veuves dans l'église? C'est-à-dire, elles ont le droit, elles ont liberté totale de parole ou elles n'ont personne à qui s'adresser? Est-ce qu'on a affaire, si on fait référence au verset 36, hein, où il dit, mais est-ce de chez vous seul que la parole de Dieu est sortie? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Est-ce que c'est un problème typique de l'église de Corinthe qui se croit plus spirituelle que les autres églises? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions dont les réponses ne sont pas simples à apporter, parce qu'il y a de la distance entre Corinthe et nous. S'ajoute à cela les difficultés de la grammaire grecque qui ouvre sur des controverses entre spécialistes. Et vous le savez, moi je ne suis pas un spécialiste du grec. Hein. J'avais un enseignant à Genève hein, qui a écrit deux bouquins de commentaires sur les Corinthiens. Il connaissait les deux livres par cœur, en français, en anglais et en grec. Et puis, il est auprès du Seigneur maintenant, il peut en discuter avec Paul. Mais nous, en attendant, on n'a que ses écrits. Alors la question qui se pose ici, et que la question à laquelle la grammaire peut nous aider, c'est de savoir, et c'est le sujet de la controverse, est-ce que Paul exprime ici son opinion, ou est-ce qu'il exprime l'opinion de l'église de Corinthe? Quand il dit que les femmes se taisent dans l'église, est-ce que c'est lui qui dit, moi je vous dis, les femmes doivent se taire dans l'église? Ou est-ce qu'il, quand il dit que les femmes se taisent dans l'église, est-ce qu'il est en train d'exprimer l'opinion de l'église de Corinthe? comme il dit, tout est permis. Et il rajoute d'ailleurs, mais tout n'est pas utile. Il répond à un certain nombre de choses dans cette église et en plusieurs endroits, on repère dans cette épître que Paul exprime l'opinion des Corinthiens pour tout de suite les ramener à, sous un éclairage biblique. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire ici? La tâche est ardue. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Est-ce qu'il est en train de s'opposer aux femmes qui s'arrogent une place qui n'est pas la leur dans cette église? Ou est-ce qu'au contraire, il doit reprendre l'église qui empêche les sœurs de vivre leur foi normalement au milieu d'eux? En fonction de la manière dont on répond à cette question, qui n'est pas définitivement tranchée entre les spécialistes, hein, dans... c'est Alfred Kuhn hein, qui a fait un bouquin qui s'appelle « L'encyclopédie des difficultés bibliques ». Cette question-là, elle prend des pages et des pages et des pages et des pages où un répond à l'autre à cause d'un tout petit mot grec hein, qui se transformerait en « ou bien » que Paul utilise partout pour marquer l'opposition entre ce qu'affirment les Corinthiens et ce qu'il veut affirmer au nom de Jésus-Christ et qui se retrouve dans ce texte. Alors, est-ce qu'il fait cet office ou pas? C'est un tout petit mot hein, qui s'écrit en phonétique avec un E avec un accent grave. Ou. Et en fonction de l'importance que vous donnez à cette petite lettre, hein, vous devenez soit égalitaire, soit complémentariste. Et c'est quoi ces deux mots? Comprenez. Si vous êtes égalitaire, vous comprenez que la femme est totalement l'égale de l'homme dans tous les domaines. Ça lui ouvre la possibilité d'enseigner, d'être ancien ou d'être pasteur dans l'église. Si vous êtes complémentariste, vous comprenez que la femme est l'égale de l'homme, mais qu'elle est complémentaire à l'homme. Et donc, elle ne peut pas occuper une position d'autorité sur l'homme dans l'église. Jusqu'à présent, on a vu des choses qui étaient sujet de controverse dans l'église, mais plutôt dans le passé. Hein. Là, on s'attaque à un sujet de controverse qui est actuel. Et ce thème est actuellement si explosif dans l'église contemporaine que j'ai un peu l'impression ce matin de jouer avec une boîte d'allumettes dans une poudrière en abordant ce texte. Mais c'est un des avantages de la prédication textuelle. C'est que vous êtes contraint de parler et d'exposer des textes où vous auriez employé tous vos moyens pour les éviter. Donc, puisque ce texte se présente à nous ce matin, alors je tiens à vous rassurer, je n'ai aucune intention de mettre le feu ce matin, d'autant plus qu'il me semble que le thème de la place des sœurs dans l'Église n'est pas un sujet de controverse, de dispute au milieu de nous, et j'en remercie le Seigneur, c'est tant mieux. Alors je vous propose, à la lecture de ce texte, que Dieu se manifeste dans la diversité humaine au travers de l'Église, qui est le lieu de sa sainteté, un lieu d'ordre et de bienséance, un lieu où l'on respecte la volonté de Dieu. Alors, d'abord, l'Église est un lieu de sainteté, ou c'est le lieu de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Alors souvent on dit saint, ça veut dire être mis à part. Alors ça dépend du contexte, hein. Suivant le contexte, ça peut être une définition un peu édulcorée, parce qu'on ne peut pas dire, quand on parle d'un Dieu saint, que Dieu est simplement mis à part. Quand on parle de la sainteté de Dieu, on veut dire que Dieu est souverainement pur et parfait. Il est d'une pureté morale absolue. Il est celui qui mène une vie irréprochable, en tout point conforme aux lois de la morale et de la religion. Ça c'est si on veut nous l'appliquer à nous. Le contraire de la sainteté, c'est ce qui est profane. Autrement dit, ce qui est hors du temple. Et c'est ce qui désigne ce qui est étranger à Dieu, ce qui est étranger à sa sainteté. Et on sait que Dieu veille jalousement sur sa sainteté. Vous connaissez peut-être ou certainement cet épisode où les fils d'Aaron ont amené dans le tabernacle un feu étranger. Autrement dit, un feu qui n'était pas de l'intérieur du tabernacle du temple, un feu profane. Et vous savez qu'ils l'ont payé de leur vie. Le feu est sorti de devant Dieu et les a dévorés. Ce qui a cours dans ce monde n'a pas cours dans l'Église de Jésus-Christ. C'est le lieu de celles et ceux qui sont mis à part pour Dieu, qui sont consacrés à Dieu avec des règles et un fonctionnement conforme à la sainteté de Dieu, à la volonté de Dieu qui est issue de la parole de Dieu qui seule fait pour nous autorité en matière de vie et de foi. L'Église est le lieu de la sainteté. L'Église est aussi le lieu de l'ordre et de la bienséance. On a déjà parlé la dernière fois de l'ordre, je vais donc plutôt m'attacher à la bienséance ce matin. La définition de la bienséance, c'est une conduite sociale en accord avec les usages, respect de certaines formes. Alors, c'est une conduite sociale qui prend en compte la présence d'autrui. Quand je suis seul dans ma salle de bain, je n'ai pas de problème de bienséance. Je ne risque de choquer personne. Je peux prendre ma douche en toute quiétude. Mais s'il y a la salle de bain Simon ou Matisse qui se brossent les dents, je ne peux plus user de la même liberté, n'est-ce pas? C'est une question de bienséance. Le contraire de la bienséance, c'est l'impolitesse. L'incongruité, ouais, c'est un gros mot qui veut dire faire ce qui est déplacé. C'est l'inconvenance, l'indécence, le sans-gêne, le choquant. Et vous savez, ces choses peuvent toucher des domaines très variés de notre vie. Ça peut toucher la question du temps. Être à l'heure est une question de bienséance. Ça peut toucher les relations. Mais il y a la bienséance dans les relations entre nous, entre personnes de sexe différents, entre différences d'âge. C'est une question de savoir vivre, de savoir être. Autant de domaines dans lesquels l'Écriture nous invite à progresser. Alors, quels sont les usages et les formes que nous sommes appelés à respecter dans l'Église? Paul fait référence à ce qu'il appelle ici la loi. Quelle loi? La loi grecque? Vous savez, dans l'usage grec, d'après ce que j'ai pu en lire dans mes recherches, l'idée était de l'égalité entre l'homme et la femme. Cependant, toujours dans l'usage, la femme était considérée comme impropre à l'enseignement. Il y avait des femmes prophétesses, mais elles étaient simplement des porte-paroles du Dieu. Mais par nature, les Grecs considéraient les femmes comme impropres à enseigner. Elles devaient se contenter d'enseigner aux jeunes femmes comment s'occuper des tâches domestiques et être soumises à leur mari. Alors peut-être Paul fait-il référence à la loi juive? Alors voici une citation de Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, je cite « La femme, dit la loi, est inférieure à l'homme en toutes choses. Aussi doit-elle obéir non pour s'humilier, mais pour être dirigée. » Oui, je vois des grands yeux qui s'ouvrent, des grimaces. Oui, c'est pas vraiment en accord avec l'Écriture. Dans ce domaine-là aussi, Jésus aurait pu dénoncer l'usage que les responsables religieux et civils faisaient de la loi. Ils n'hésitaient pas à la tordre et à la détourner à leur bénéfice. Alors, sans aucun doute, Paul fait référence à la loi de Dieu. À laquelle? Alors, certains citent ici Genèse 3, 16, où Dieu dit à la femme: « Ton désir se portera vers ton mari, mais lui, il te dominera. Mais est-ce que c'est une loi ou est-ce que c'est une malédiction? Ça fait partie de la malédiction du péché. Et on constate que quand Paul fait référence à la relation entre l'homme et la femme, il fait référence à Genèse 2, vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens 11, hein, les versets 2 à 16, j'y ai déjà fait référence. Il fait référence à l'ordre créationnel. Il nous ramène dans l'Église à l'intention première de Dieu lors de la création. Cet ordre qui sera pleinement rétabli dans la nouvelle création. Ce qui m'a beaucoup étonné, et ce sur quoi je voudrais attirer notre attention ce matin, c'est le fait que lorsque Dieu donne la loi au Moïse et au peuple d'Israël, il le fait conformément aux usages qui ont cours dans les peuples à cette époque. On peut être étonné que Dieu a donné au peuple d'Israël deux tables sur lesquelles il a gravé les lois. Et on se rend compte que partout dans les peuples alentours, on a le témoignage du code d'Hammurabi, hein, cette pierre sur laquelle est gravée la loi, que c'était en usage. À ces moments-là, on gravait les lois dans la pierre et on les exposait publiquement pour que chacun puisse connaître la loi. Le temple, partout on avait un lieu sacré où adorer la divinité. Même le coffre sacré, ce fameux tabernacle, hein, où partout dans ces peuples-là, à ce moment-là, on avait ces coffres qui étaient mobiles, transportables, où on pouvait mettre dedans les objets sacrés, les prêtres, etc., etc. Et même si on se rend compte que la loi qui est donnée par Dieu à Israël est plus favorable, plus humaine, avec notamment le jour de congé, avec notamment, on le dit, pas de restrictions notables, la femme n'est nulle part considérée comme inférieure à l'homme, elle n'est pas un sous-produit, hein, dans la loi de Dieu. La bienveillance envers les pauvres, envers les esclaves, envers les étrangers. Et si on voit que Dieu met plus d'humanité dans sa loi, on se rend compte que c'est assez conforme à ce qui se pratique dans les peuples autour. Ainsi, la voie de Dieu reste abordable et compréhensible pour l'ensemble des humains. Et on se rend compte dans le Nouveau Testament que Paul exhorte de la même manière à ne pas choquer inutilement par nos usages afin de gagner le maximum de personnes à Christ, ou pour éviter de blesser leur conscience. Il dit par exemple, je me fais tout à tous, comme ayant une loi avec ceux qui ont la loi, comme étant sans loi avec ceux qui sont en loi, quoique étant sous la loi de Christ, etc. Je fais tout ça afin de gagner le maximum à Christ. Il traite aussi cette question dans les viandes sacrifiées aux idoles, quand il dit, mangez tout ce qui se vend sur le marché, hein, sans motif de conscience. Si quelqu'un vous invite à manger chez lui, mangez ce qu'on vous présente. Mais s'il vous dit, attention, ça c'est de la viande sacrifiée aux idoles, n'en mangez pas. Pas à cause de votre conscience, mais à cause de la sienne. Donc veillez à sa conscience et ne mangez pas de la viande sacrifiée aux idoles pour pas qu'il puisse vous juger. Et on pourrait faire une prédication entière sur ce thème et l'émailler de nombreuses illustrations, hein, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais on doit quand même faire attention avec cet argument et cette manière d'aborder les choses. Parce que si l'Église veille à la bienséance en cherchant à ne rien faire qui fait obstacle au progrès de l'Évangile, elle n'est pas et en aucune manière dirigée par la culture ambiante, mais elle est dirigée par l'Écriture. On l'a déjà dit, et je le répète ici, ce n'est pas la culture ambiante qui fait autorité en matière de foi et de vie pour le croyant, mais la volonté révélée de Dieu, ou autrement dit, la Bible. L'Église est aussi le lieu du respect de la volonté de Dieu. Et on se rend compte ici que le raisonnement de Paul est fondé sur la théologie de la création, pas sur des considérations socioculturelles. Donc quand il fait référence à la loi, peu lui importe la loi des hommes. Il fait référence à la relation entre hommes et femmes, comme il fait référence à la relation entre Dieu et Christ. Mais nous savons que le péché est passé par là et qu'il a considérablement abîmé les relations. Je voudrais vous lire l'extrait d'un manuel utilisé dans les années 50 dans les écoles secondaires en Nouvelle-Zélande, en cours d'éducation domestique pour préparer les jeunes filles à la tenue d'un foyer. Accrochez-vous à votre chaise. Veillez à ce que le repas soit prêt. Pensez-y à l'avance, et même le jour avant, afin d'avoir un bon repas prêt à temps. La plupart des hommes ont faim en rentrant à la maison. La perspective d'un bon repas fait partie de l'accueil chaleureux dont ils ont besoin. Soyez vous-même prête. Prenez le temps de vous reposer un quart d'heure pour être fraîche et dispose quand il arrive. Renouvelez votre maquillage et soyez gaie. Il était avec des gens épuisés par le travail, et après une journée fatigante, il a besoin que vous lui remontiez le moral. Faites de l'ordre dans la maison. Enlevez du milieu du chemin les sacs d'école, les jouets, les papiers, etc. Passez un coup de chiffon sur les tables. Il faut que votre mari se sente dans un lieu de repos et d'ordre. Préparez les enfants. Prenez quelques minutes pour leur laver les mains et les visages, s'ils sont petits, pour les peigner. Et si c'est nécessaire, changez leurs habits. Éliminez le bruit le plus possible. Éteignez les appareils bruyants, comme le lave-linge ou l'aspirateur. Essayez d'obtenir le silence chez les enfants. Mettez-le à l'aise, qu'il s'allonge sur un fauteuil confortable ou sur le lit dans la chambre. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude. Arrangez son coussin. Offrez-lui de retirer ses chaussures. Parlez-lui d'une voix douce et reposante. C'est croustillant, n'est-ce pas? On est dans les années 50, là, hein? Ouais, mais c'était loin, c'était en Nouvelle-Zélande, hein? C'était loin, c'était en Nouvelle-Zélande, hein? Et voilà ce que le péché a accompli. Il a transformé la femme en bobonne. C'est devenu bobonne. Et en même temps qu'elle est devenue bobonne, elle est devenue le centre de toutes les controverses dans la société et aussi dans l'Église. Alors vous savez ce qu'on a fait dans l'Église? On a mobilisé toutes nos forces et on a mobilisé nos meilleurs théologiens pour décider si la femme a le droit de travailler, pour décider si elle a le droit de parler, pour décider si elle a le droit aux manches courtes, si elle a le droit de porter un pantalon, si elle a le droit de se couper les cheveux. En fait, d'une manière générale, on a des problèmes de longueur de toutes sortes avec les femmes, n'est-ce pas? Et l'homme, dans sa sagesse et dans sa condescendance, lui accorde des permissions, des autorisations. La pauvre, pauvre femme, il faut la comprendre et il faut la soulager du poids qui pèse sur elle. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de lire Proverbe 31 pour trouver quelques réponses, hein, toutes prêtes et toutes simples à toutes ces questions? Mais vous savez, les femmes sont pas si bêtes, hein. Et sous cette oppression machiste, elles utilisent leurs armes à elles pour se faire une place au soleil. Mais vous savez, il n'y a aucune surprise dans cet état de fait, parce que tout cela était annoncé à l'avance. Dieu savait comment le péché transformerait notre société. Je rendrai tes grossesses très pénibles. Mettra tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui, il te dominera. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Fruit du péché. C'est pourquoi Paul ne revient pas à la malédiction de Dieu sur l'homme et la femme, mais sur l'origine, sur la création et sur son ordre, il créa l'homme mâle et femelle égaux, mais avec des prérogatives différentes. Et on constate dans tout ce que Dieu fait qu'il y a un ordre dans la création et dans l'univers. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et compris dans le sens biblique, ce n'est pas un chef d'autorité, mais de responsabilité. Alors, à la lumière, de tout ce qu'on vient d'expliquer et de considérer ce matin, alors la manière traditionnelle d'interpréter ce texte, en dehors de la considération littérale, qui interdit à la femme de parler tout court, c'est de reconnaître aux sœurs la liberté dans l'Église, avec pour seule limite de ne pas prendre autorité sur les frères. Et il me semble que c'est de cette manière dont notre Église reçoit ce texte. Et je dois vous dire, que vous avouez que pour ma part, pour l'instant, ou en tout cas dans ma compréhension et ma lecture de l'Écriture, je n'ai pas de meilleur éclairage sur la question pour le moment. Paul conclut de manière remarquable ce paragraphe, mais aussi l'ensemble de l'exposé sur les dons. Veillons à ce que tous les dons puissent s'exprimer dans l'Église, aussi les dons des sœurs. Il ne s'agit pas d'ériger des barrières pour interdire, mais dans l'exercice des dons, simplement de veiller à respecter la bienséance et l'ordre. Il est louable pour l'Église, c'est même recommandé, c'est encouragé par le Seigneur, de veiller à ce que ce ne soit pas l'esprit et les idées du monde qui dominent au sein du peuple de Dieu. Mais on doit veiller à ce que notre lutte contre l'esprit du monde d'aujourd'hui ne se fasse pas au nom de l'esprit du monde du passé et qu'on a parfois laissé entrer dans l'Église. Et dans ce domaine précis, on ne peut pas lutter contre le féminisme, en tout cas tel que le comprend le monde, parce que ça mériterait d'être défini, en utilisant les arguments du sexisme. On doit revenir à la parole. Et on doit se débarrasser d'un côté du féminisme et de l'autre côté du sexisme pour regarder ces textes et comprendre, même si c'est pas toujours simple, on vient de le constater. Mais quel est le rôle que le Seigneur a voulu assigner à chacun et chacune dans l'Église? Soyons prudents et sages pour exercer un juste discernement dans le domaine particulier des dons et aussi en ce qui concerne les dons que le Seigneur a accordés aux sœurs, à nos sœurs, dans l'Église. L'Église a un devoir de vérité et de sainteté, mais elle a aussi un devoir égal d'amour. Et rappelez-vous que le message central de cet enseignement de Paul sur les dons est la voie par excellence, la voie de l'amour. Que le Seigneur nous aide à mettre cet amour en pratique au milieu de nous, entre nous et envers ceux qui nous entourent. Amen.